Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de Jeudredi, votre rendez-vous hebdomadaire sur Agone Radio. Au sommaire de ce soir, Yasmina Cordonnier, responsable de la librairie Saint-Augustin à Saint-Maurice, nous présentera deux nouveaux ouvrages à l'enseigne de Miroir de Page. Stéphane Davet nous dira ce qu'il faut observer dans le ciel du mois de mars. Et puis, on franchira les frontières agonoises ce soir puisque Victor Glacet recevra tout à l'heure Robert Giroux, historien et auteur, pour évoquer notamment l'histoire de la famille Magnin qui émigra de Chara vers les États-Unis en 1886. Un nouveau rendez-vous historique d'ailleurs que vous retrouverez désormais chaque mois sur Agone Radio. Nous sommes le jeudi 2 mars 2023, nous sommes ensemble pour une heure sur Agone Radio.
Bonjour sur Agone Radio avec un premier livre et Yasmina avec un titre énigmatique. Ceci n'est pas un fait divers.
Dès la première page, le ton est donné. Léa, 13 ans, appelle son frère et murmure cette phrase glaçante « Papa vient de tuer maman ». Philippe Besson s'empare d'un sujet de société, le féminicide, et le traite à travers le prisme très peu abordé de ce qu'il nomme les victimes collatérales, c'est-à-dire la famille et plus particulièrement les enfants.
Il y a une intrigue ?
Oui, bien sûr qu'il y a une intrigue. Suite à cet appel, le narrateur quitte précipitamment Paris pour être aux côtés de sa sœur. Interrogatoire, procès, tout s'enchaîne, car Léa est la seule témoin du crime, la personne qui a vu et entendu les 17 coups de couteau qui ont tué sa mère. Là, tous ses repères s'effondrent. En plus de la perte de sa mère, du traumatisme de l'événement, elle est prise dans un tourbillon de sentiments contradictoires qui achève de la détruire. Car elle ne peut pas rayer de sa vie son père, cette figure qui représentait à ses yeux la sécurité et la protection. Son frère, de son côté, va essayer de comprendre, de remonter le cours des choses. Il quitte la demeure familiale à 14 ans pour se consacrer à des études de danse classique, soulagé de s'éloigner de ce père qui ne le comprend pas. Ses visites s'espacent. Son sentiment de culpabilité grandit lorsqu'il apprend que sa mère prenait des médicaments pour tenir le coup et qu'il n'a pas remarqué lors de sa dernière visite à quel point elle avait maigri. Qu'il a préféré ne pas voir certains signes avant-coureurs. Il comprend très vite qu'il doit faire un trait sur sa vie, sur ses projets, pour se consacrer à sa reconstruction et surtout à celle de sa sœur.
Le titre, ce n'est pas un fait divers, mais en réalité, c'est un fait divers, quelque chose de pas commun, mais qui arrive dans la vie.
Alors, ce n'est pas un fait divers, parce que pour rappel, un fait divers est un événement sans portée générale qui appartient à la vie quotidienne. Il n'est pas politique, social, économique, culturel. Il est donc inclassable. À la lecture du texte, on comprend très vite pourquoi Philippe Besson a choisi ce titre. Déjà, il sonne comme un avertissement, une mise en garde. Sans encore connaître la teneur, on pressent le drame. Une fois le livre fermé, il confirme, si cela est encore nécessaire, que le féminicide est bien un fait de société contre lequel il faut lutter et non pas une fatalité. D'ailleurs, ce n'est pas un fait divers, ce sont aussi les mots que pourrait crier le narrateur lorsqu'il arrive devant le pavillon familial, cerné par les bandelettes de plastique qui délimitent une scène de crime, autour duquel les curieux se sont déjà rassemblés.
On sait que Philippe Besson, c'est un écrivain qui est relativement engagé pour la cause, pour les sociétés, contre l'homophobie par exemple. Ici, notamment un appel à lutter contre les violences conjugales, lancé par la comédienne Muriel Robin en 2018. Mais c'est bien un roman engagé.
Alors oui, il ne s'agit pas d'un essai, parce que Philippe Besson est un romancier du sensible, du sentiment, qui décortique l'âme humaine avec empathie et pudeur. Mais l'art romanesque flirte parfois avec la réalité. Et la réalité, c'est ce lecteur qui, lors d'une conversation avec Philippe Besson, lui murmure cette phrase glaçante « Mon père a tué ma mère ».
Vous qui avez lu le livre, c'est un livre qui est bouleversant, c'est comment ?
C'est un livre qui est bouleversant, mais il y a une certaine pudeur et on peut quand même rester, Philippe Besson reste quand même en retrait. On n'est pas du tout dans le pathos. Mais effectivement, oui, c'est bouleversant parce qu'on voit aussi qu'en plus des enfants, ben, y a tous les gens qui gravitaient autour qui sont touchés. La voisine, qu'il a côtoyé, mais qui n'a rien vu. L'ami du couple, qui un jour voit un geste, mais se dit que non, c'est pas possible. Il l'a mal vu. Donc, c'est quand même, oui, effectivement, très prenant, et ça interpelle et ça pose des questions.
Donc, il y a tout l'environnement, l'univers qui fait que ça pose des questions.
Oui, tout à fait.
Deuxième livre, « Un profond sommeil » de Tiffany K. Tyson, traduit de l'anglais, qui discute, dans le delta du Mississippi. C'est intéressant parce qu'en deuxième partie, on va discuter du Missouri-Mississippi. Donc, intéressant ce livre, donc « Un profond sommeil ».
Oui, « Un profond sommeil » aux éditions Sonatine. Alors, il règne une chaleur torride en ce mois d'août 1976 dans le delta du Mississippi. Willett, Bert et Ponsy, bravant l'interdit, décident d'aller se rafraîchir à la carrière. Mais on dit ce lieu maudit, théâtre d'incidents mystérieux et peuplé d'esprits maléfiques. Willett et Bert s'absentent quelques instants pour manger des baies. Lorsqu'ils reviennent, leur sœur de 6 ans a disparu. Les jours passent sans aucune nouvelle, l'événement perd de son intérêt auprès des médias, l'enquête s'enlise. Leur famille s'effrite, la mère n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le père, qui tire ses revenus de trafic illicite, déjà bien peu présent avant le drame, disparaît totalement du paysage. Willett et Bert, rongés par la culpabilité, doivent se débrouiller et apprendre à grandir très vite. Il s'engage sur des chantiers et elle va travailler aux côtés de sa grand-mère paternelle, femme au parcours bien singulier, experte dans l'art de soigner et soulager les femmes. Mais le souvenir de leur sœur ne cesse de les hanter et l'affaire rebondit et les entraîne en Floride.
Donc là, on a aussi un fait divers au début, c'est un récit de vie.
C'est pas vraiment un récit de vie, on reste dans le roman. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre s'ouvre aussi sur d'autres trames narratives. On plonge notamment dans l'histoire avec un grand H de la région. Son passé esclavagiste, où de riches terriens avaient droit de vie et de mort sur leurs esclaves. Ayant tellement peu de considération pour leurs personnes qu'ils restaient persuadés que ces derniers étaient bien mieux là que sur leur terre d'origine. Avec la guerre de sécession, qui porte aussi d'autres noms, comme guerre civile, guerre d'agression du Nord ou guerre pour l'indépendance du Sud, l'esclavage est aboli, mais la ségrégation prend le relais. Malheur à celui ou celle qui sort de sa condition. D'ailleurs, cette fameuse carrière est le théâtre de réunions bien inquiétantes.
Donc on a toute cette histoire, cette ambiance du Mississippi, on a un roman narratif, descriptif, une série de destins de personnes, c'est quand même un roman policier.
Alors, c'est un ouvrage à la croisée des genres, parce que c'est vrai qu'avec la disparition de Ponsy, il prend les codes du roman policier. Mais on sent bien vite que le propos et la force du livre se situent ailleurs. D'ailleurs, il se dégage de ses pages un charme envoûtant. Il est impossible, malgré une certaine lenteur narrative, de ne pas le lire d'une traite, un peu à l'image d'un page-turner. Et parfois, on a l'impression de toucher au roman fantastique, avec ces terres où se croisent les légendes amérindiennes et afro-américaines, ces espaces marécageux, ces tunnels de mangroves, où il est si facile de disparaître, volontairement ou pas. La tonalité générale reste quand même sombre, et la touche de douceur est apportée par Berthe, qui trace sa route, décide de ne pas regarder uniquement ce qu'on veut lui montrer, et s'ouvre ainsi à la vie.
Donc c'est un roman en plusieurs genres, avec plusieurs étapes.
C'est un roman avec plusieurs étapes, on va dire avec plusieurs arcs narratifs, mais qui bien sûr, tous ces arcs vont amener vers le dénouement.
Mais il y a un dénouement, donc l'affaire va rebondir.
Oui,
on va savoir à la fin du livre ce qui arrive à la petite.
L'affaire va rebondir, bien sûr, je ne vais pas en dire plus. Si vous voulez savoir, je vous invite à venir à la librairie l'acheter.
Alors, le rendez-vous est pris. Alors, si vous voulez connaître la fin de ce livre et puis la destinée de la petite Ponsy, qu'on espère heureux ou pas, à voir chez Yasmina. Merci beaucoup.
Un petit clin d'œil d'actualité sportive, puisque nous recevons dans ce studio Jean Bonvin, qui préside à l'organisation ce week-end, vous l'avez sans doute vu, des championnats suisses de cross qui se dérouleront ici à Saint-Maurice. Et Victor Glasset le reçoit pour faire le point sur cette compétition avec lui.
Donc nous avons ce championnat suisse ce samedi à Saint-Maurice. Qui organise
Dimanche.
Ah, ce dimanche, voilà, une première précision. Qui organise ce championnat ?
La société de gymnastique de locale.
Local. Beaucoup de participants sont attendus pour
On a dépassé la barre des 600 qui était notre objectif. On a à peu près 620 actuellement.
Qui viennent de toute la Suisse.
Toute la Suisse.
Des personnes locales, il y en a beaucoup, des Valaisans ou c'est
Alors,
plutôt un sport.
Alors, Saint-Maurice, chose extraordinaire, il y en a 38. Plus une équipe de foot féminine, U14.
D'accord. Il y a
Ce qui est pas mal.
Il y a plusieurs catégories, j'imagine.
Il y a 35 catégories.
Par exemple.
Ça part de 75 ans, pardon, jusqu'à, si je descends, c'est jusqu'à 8 ans.
D'accord. Le parcours, ça sera donc sur...
Alors le parcours, ça va épouser la piste finlandaise actuelle avec 2-3 petits talus, 2-3 petits obstacles classiques, normales depuis la nuit des temps. Puisqu'en 1984, on avait déjà organisé le premier. 2010, le deuxième, puis ça sera le troisième.
Troisième. Le parcours, donc, la piste finlandaise, elle fait quoi? À peu près un kilomètre?
La piste finlandaise fait 541,23 mètres. Là, je suis
Je la fais
mal.
Pas assez souvent.
Ouais. Et puis, non, on va la répéter en faisant un peu de slalom là-bas autour.
Donc, l'élite fait combien de kilomètres en
9
tout?
9 kilomètres.
9 kilomètres.
Ça veut dire 9 tours.
9 tours. On attend quel temps à peu près pour du 9 kilomètres?
Ouais, il faut compter du 3,30 au kill. Ça veut dire aux environs de 29,30.
Qui peut participer? Il faut être inscrit, il faut être licencié?
Alors, tout le monde peut participer. Bien évidemment, dimanche matin, on aura des inscriptions sur place, une heure avant le départ de l'épreuve. Et puis, ça devrait fonctionner. J'imagine à quelque part qu'il y aura encore une cinquantaine de personnes qui vont s'inscrire.
Les enfants peuvent participer à partir de quel âge?
Alors nous, on a ouvert la catégorie U8. Ça veut dire des gamins de 8 ans, des garçons et des filles de 8 ans, qui auront 800 mètres à faire. Et pas le kilomètre.
Ok, d'accord. Et puis, c'est à partir de quelle heure sur place?
9h10, première course, ça veut dire les masters, ça veut dire les gens qui ont au-delà de 35 ans, jusqu'à 70. Il y en a qui ont 70. J'en ai vu en tout cas 3 qui sont inscrits, qui ont dépassé les 70 ans. Et puis après, il y aura toute la catégorie jeunesse, ça veut dire bah, justement les U8 jusqu'à U16. Puis après, il y aura deux U16 jusqu'à 16h20 pour l'élite. Quoi.
Donc toute la journée, on peut venir, on peut voir, on peut, il y a des, pour les spectateurs, il y a de la
ouais,
place.
Ouais,
restauration aussi sur place.
Alors, restauration, petite restauration directement sur place. Autrement, on offre aux participants et aux bénévoles, bien évidemment, une partie pour manger à la buvette de la piscine.
Comment on fait pour accueillir 600 athlètes en une journée à Saint-Maurice? C'est un défi logistique.
Oui. Mais en 1984, il y en avait 1352.
D'accord. Ça veut dire que c'est un sport qui est moins populaire aujourd'hui qu'à l'époque?
Il y a trop de sports aujourd'hui.
Ah, c'est ça. Championnat suisse, donc ça veut dire que c'est la course qui va déterminer qui est champion suisse. On
ouais,
est d'accord.
Et ouais. À partir de là, il y aura quand même les sélections, pardon, pour les championnats européens.
D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui seront là ce dimanche, qui vont se retrouver au championnat européen. Championnat du monde, ça existe?
Exactement, ouais. Mais là, je suis pas au top, hein, parce qu'on n'entend pas trop parler. Les Européens, ça va.
Il y a beaucoup de Valaisans, beaucoup de Romands. C'est un sport qui est plutôt Valaisan, enfin, plutôt Romand, plutôt Suisse-Allemand.
Alors, bien évidemment, par la masse des Suisses-Allemands, il y aura beaucoup de Suisses-Allemands. Mais, comme par hasard, à Saint-Maurice, il y en aura 38. Dont une classe de foot. Ce qui est fantastique.
Donc des gens qui viennent pour faire une journée. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc nous vous invitons ce dimanche à partir de 9h sur ouais. la piste finlandaise, soit pour participer ou inscrire des enfants, soit pour simplement voir peut-être des futurs, enfin des futurs champions suisses, peut-être des futurs champions européens ou champions du monde.
Ben, bien sûr, c'est aussi un peu l'objectif. Hein.
Ouais. Ok, merci beaucoup Jean-Bavin d'être passé chez
nous. Bah voilà.
Et bonne, chance pour l'organisation du dimanche.
Il va faire beau temps, il faut...
Alors il faut sortir.
Les deux dernières fois, il a neigé. Hein. 1984, ça de neige. À 16h, il a neigé ça. En une heure de temps, on était dans la merde. Non, dans la neige.
D'accord.
Et puis en 2010, il a neigé ça.
Ok, donc ça serait
Mais
une...
il ne va pas neiger.
Ok, alors c'est déjà un point positif, il va faire beau et puis ça sera ce dimanche.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Hein.
Bonne soirée, au revoir.
Saint-Maurice Tourisme vous présente l'agenda du week-end. Vendredi 3 mars, à midi, l'Écu du Valais accueille le repas de l'amitié organisé par l'Avivo. Inscription auprès du CMS au 024 486 81 81. Samedi 4 mars de 18h, participez au souper de soutien du BBC Agone à la salle commune de la Tuilerie. Inscription sur bbcagone.ch. Samedi 4 mars de 14h à 17h, les jeunes de plus de 7 ans sont invités à participer à un atelier de bougies à l'ADZEB. Inscription obligatoire à ladzeb@bluewin.ch. Dimanche 5 mars, les championnats suisses de cross ont lieu au Terrain des Îles. Info sur www.cscross2023.info. Et du côté des expositions, découvrez en vitrine de la Galerie Oblique les œuvres de Marie-Christina Mourani du 19 février jusqu'au 19 mars. Suivez l'actualité des manifestations sur saint-maurice.ch/agenda.
Longtemps après sa première revue, la troupe des Tréteaux du Parvis présente La Revue s'illustre, la 8e revue agonoise tous les vendredis, samedis et dimanches du 11 mars au 1er avril à l'Ola de la Tuilerie de Saint-Maurice. Réservation sur tréteauduparvis.ch et auprès de Saint-Maurice Tourisme. La 8e revue agonoise, un spectacle tout en couleurs et majoritairement en français du 11 mars au 1er avril à Saint-Maurice. Jeudredi, Victor Glacet, Thierry Vrobatel, 17h30, 18h30, en direct sur Agone Radio.
Nous retrouvons Stéphane Davet pour le ciel de mars 2023. Bonjour Stéphane.
Bonjour Victor.
Donc mars, les jours se rallongent, c'est moins facile pour l'observation.
Voilà, effectivement. Alors le soleil va se coucher aux alentours de 5h45, 18h, disons. Et donc c'est vrai qu'il faut attendre, je dirais, 19h pour commencer à voir des objets du ciel profond. Mais bon, pour les planètes, on peut toujours commencer à les observer dès que le soleil est couché. Donc ça va.
17h45, heure d'hiver.
17h45, heure d'hiver, exactement.
Il y aura un passage à l'heure d'été. Hein.
Exactement.
La Lune ?
Alors la Lune, ben, elle sera pleine le 7 du mois, donc toujours en début de mois, depuis déjà quelques mois maintenant. Ça veut dire que si on veut pouvoir observer le ciel profond, donc des galaxies, des nébuleuses, il faudra plutôt le faire en deuxième partie de mois, comme d'habitude.
Donc la Lune met à peu près 28 jours hein, pour faire le tour de la Terre.
Exactement. Hein.
Ça veut dire que chaque mois, en fait, on recule de grosso modo 2-3 jours pour la pleine Lune.
Oui, à peu près. Après, il y a des petites fluctuations, des petites variations qui fait qu'on ne peut pas calculer exactement comme ça. Mais oui, en fait, c'est l'idée, effectivement.
Au niveau des planètes ?
Alors les planètes, ben, Jupiter, elle est visible en début de nuit. Donc, tout se décale. Hein, depuis maintenant quelques mois, on remarque que les planètes disparaissent gentiment. La Saturne, maintenant, on ne la voit plus. Jupiter, on la voyait toute la nuit, maintenant on la voit en début de nuit, puis elle ira se coucher en milieu de nuit.
Donc elle est plus proche du Soleil.
Exactement, dans le ciel, elle va en direction du Soleil, effectivement. Et puis, on aura Mars, qui est visible également en une partie première partie de nuit également. Et puis, Vénus, qui maintenant va être visible au crépuscule, donc juste après le coucher du soleil.
Alors, je l'ai vu, c'est très impressionnant. Hein.
Ah oui, alors absolument, c'est vraiment un grand spectacle, cette planète Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du berger. Et elle va être visible au crépuscule, en tout cas jusqu'au mois de juillet prochain. Donc, on a le temps de l'observer.
Dès que le soleil se couche, on voit cette étoile hyper brillante, donc c'est Vénus direction ouest.
Exactement, ouais, tout à fait.
Les constellations ?
Alors, on a toujours, bien évidemment, les constellations de l'hiver, la constellation du taureau, la constellation d'Orion aussi, on en parle toujours parce qu'elle renferme toute une panoplie de nébuleuses et d'objets très intéressants. On a également toujours le grand chien et le petit chien avec Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel.
Bon, le grand chien et le petit chien visibles toute l'année, hein ?
Non. Non, pas du tout. Alors, elle suit en fait.
Ah, c'est Grand Ours, Petit Ours.
Exactement, ah, voilà, Grand Ours, Petit Ours. D'ailleurs, j'y viens maintenant. En fait, on peut, en regardant au nord, parce qu'on peut aussi regarder le nord, pas seulement toujours le sud. Et si on regarde au nord, on va pouvoir voir évidemment la Petite Ours, qui elle est bien évidemment visible toute l'année.
Et Sirius est au sud.
En fait, Sirius suit la constellation d'Orion. C'est le chien du géant Orion, en fait, dans la mythologie. Donc elle suit, c'est l'étoile qui est juste après, à gauche d'Orion dans le ciel. Vous voyez une étoile très brillante, ça sera Sirius. Et puis donc au nord, si vous regardez au nord, vous pouvez aller observer la Petite Ours, la Grande Ours qui se trouve sur la droite, avec toutes ces étoiles bien connues, notamment Alcor et Mizar, qui sont une petite étoile double qui se trouve en fait dans le manche qu'on appelle le manche de la casserole. L'étoile du milieu du manche, en fait, c'est une étoile double. Et pour la petite histoire, la petite anecdote, les rois de l'Antiquité utilisaient cette étoile double pour tester les archers. Pour être archer du roi, il fallait pouvoir à l'œil nu distinguer les deux composantes de cette étoile qui, on a l'impression que c'est qu'une étoile, mais si on regarde bien, si on a de bons yeux, on arrive à voir en fait ces deux étoiles très 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 proches. Alors, les archers du roi avaient normalement une bonne vue, on espère en tout cas, et donc ils avaient ce test à passer, il fallait qu'ils puissent distinguer ces deux étoiles très très proches dans le ciel.
Mais on est d'accord que ces deux étoiles, donc c'est une étoile binaire, elles tournent l'une autour de l'autre.
Ou alors
on est fixe, ou alors la période, elle est tellement grande qu'on voit toujours la même chose.
Question piège. J'ai un petit doute maintenant, parce qu'il y a effectivement des étoiles doubles qui ne sont pas vraiment des étoiles doubles. C'est-à-dire qu'une est plus proche de nous, l'autre est beaucoup plus éloignée, mais comme elles sont très proches en angle, si on veut bien. C'est-à-dire qu'elles semblent être proches, mais en fait, elles sont proches, en projetées sur le ciel. Mais en fait, elles peuvent être très éloignées. Là, il me semble qu'Alcor et Mizar, ce sont des vraies étoiles doubles. Donc, c'est des étoiles qui tournent l'une autour de l'autre.
Peut-être qu'on les voit sur le plan, en fait, on les voit de face, enfin, depuis le haut, quoi.
Absolument. Alors, il y a ce genre d'effet. Puis après, bon, ça peut être des mouvements qui sont assez lents, hein. Ça, c'est clair. Et puis, une autre constellation intéressante qui se trouve cette fois-ci sur la gauche de la Petite Ourse. Quand vous regardez le nord, donc c'est plutôt au nord-ouest que vous pouvez aller voir ce W, le fameux W de Cassiopée qui est très, très visible.
Donc avec Orion, c'est quand même les deux constellations qu'on peut bien reconnaître. Donc c'est le H de Orion et le W de Cassiopée.
Exactement, ouais. C'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est effectivement une constellation qui est assez facile à observer.
Au niveau des choses marquantes du mois de mars.
Alors, le 1er mars, il y a un événement assez fantastique, c'est le rapprochement entre Jupiter et Vénus, dont on parlait tout à l'heure. Donc Jupiter, il faut bien sûr regarder à l'ouest, au couchant. Lorsque le soleil se couche, justement, on va commencer à voir Vénus. Et Jupiter va pouvoir être visible également dans cette zone-là en soirée. Pas très loin, pas très longtemps après le coucher du soleil. Il faut que Vénus soit encore là et Jupiter sera toute proche, en fait. Vraiment toute proche. Je crois qu'il y a environ un demi-degré de distance entre le centre de ces deux objets, Jupiter et Vénus.
Ça fait quelques mois qu'on fait cette émission et j'ai l'impression qu'il y a à peu près tout le temps des conjonctions. C'est vraiment quelque chose de régulier, ou alors j'avais plutôt l'impression que les conjonctions, c'était quelque chose de très rare, hein.
Non, alors pas du tout. Les conjonctions sont assez... Alors, il y a des conjonctions plus rares que d'autres. Quand il y a des conjonctions très serrées, comme celle-là, par exemple, c'est quand même un peu assez rare. Mais sinon, on peut avoir des conjonctions où on a un décalage entre les deux objets de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. Alors, à ce moment-là, c'est moins impressionnant. Mais par contre, c'est vrai que ça donne l'occasion de voir des beaux spectacles. Parce que quand on voit ces objets brillants dans le ciel qui ne sont pas loin l'un de l'autre, même s'ils sont à 2, 3 degrés, eh bien, ça donne toujours une impression assez esthétique à l'œil, notamment aussi avec le croissant de lune et ce genre de choses, qui fait que quand on regarde le ciel, c'est un spectacle. Et donc, dans tous les sites internet qui parlent des objets à observer dans le ciel et des phénomènes astronomiques, les conjonctions ou les rapprochements d'astres sont des phénomènes assez prisés et assez catalogués. Donc, c'est ça qu'on espère pouvoir observer.
Dans l'Antiquité, on parlait des fois encore actuellement, mais l'Antiquité était marquée par ces conjonctions de trois étoiles, hein, c'est juste.
Oui, alors trois étoiles, c'est quand même beaucoup plus rare, mais ça se peut, effectivement, ça existe.
Autre question de rareté, puisqu'on a encore une comète au mois de mars, c'est toujours la même.
C'est toujours la même, tout à fait. Et cette comète, donc toujours la même, C2022-ZTF, hein, cette comète, elle diminue déjà en luminosité. Si vous voulez l'observer, vous pouvez l'observer aux jumelles. On la voit assez bien aux jumelles. Mais pour ce qui est de la position, chaque jour, ça bouge. Donc, il faut aller regarder sur un site internet, vous tapez le nom de la comète et puis vous allez voir dans le ciel les différentes positions de la comète en fonction des jours du mois de mars. Et puis, jusqu'à la fin mars, disons, on pourra encore l'observer. Après, elle sera trop faible pour qu'on puisse voir quelque chose.
Jumelle indispensable.
Pour l'instant, jumelle indispensable. Elle était presque visible à l'œil nu fin du mois de février, là. Puis maintenant, sa luminosité va diminuer parce qu'elle est passée près du soleil. Elle est en train de s'éloigner. Donc, voilà, elle réfléchit moins de lumière et donc elle est de plus en plus faible.
Le mois de mars, c'est le mois du printemps, donc avec l'équinoxe du printemps.
Oui. Donc l'équinoxe de printemps, c'est vraiment un instant très précis, en fait. À la seconde près, même au dixième, voire même au centième de seconde près, on peut calculer à quel instant est-ce que le soleil passe par... par le plan de l'écliptique, et en fait, il passe par le plan de l'écliptique, l'intersection entre le plan de l'écliptique et le plan de l'équateur céleste, c'est-à-dire finalement que le soleil il est en train de passer de l'hémisphère nord céleste à l'hémisphère, l'hémisphère sud pardon, céleste, en montant vers l'hémisphère nord céleste.
Donc ça veut dire qu'à l'équateur terrestre, il sera à la verticale.
Exactement, c'est exactement ça. Donc à l'équinoxe, le soleil il est pile au-dessus de l'équateur terrestre. Tout à fait.
Et là, il va remonter jusqu'au 21 juin avec l'entrée de l'été où on sera au maximum, là, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Voilà, au-dessus du tropique du cancer.
Ok.
Exactement. Et ça se passera à 21h24, sauf erreur, le 20.
C'est pas le 21 ? J'ai toujours l'impression que c'était toujours les 21, le 20.
Non, alors c'est le 20. C'est plus souvent le 20. En fait, ça peut varier un tout petit peu ces jours. Ça peut être soit le 19, soit le 20, soit le 21 du mois de mars, en fait.
C'est à cause des années bissextiles, enfin, que en fait, la Terre ne met pas 365 jours, mais 365 jours, un quart pour
exactement,
faire le tour,
en fait. C'est la différence entre l'année tropique et l'année légale, en fait. Parce que dans l'année légale, on ne peut pas faire des quarts de jour. Donc, dans une année, il y a 365 jours. Il n'y a pas 365 jours, un quart. Et donc, chaque année, grosso modo, quand même ce quart qui vient, chaque année, le solstice a lieu 6 heures plus tard. Donc là, par exemple, on est en 2023. Ça a lieu à 21h30, disons, pour simplifier. Donc, l'année prochaine, 2024, le solstice aura lieu 6 heures plus tard. Donc, a priori, on devrait être du coup le 21 à environ 3 heures du matin, hein, 3h30 du matin. Mais comme
donc là, on a bien les heures locales.
Exactement. Okay. Mais comme c'est une année bissextile, ben on enlève un jour. Et donc, on sera de nouveau le 20, mais à 3 heures et quelques du matin. Et puis, l'année suivante, ça sera donc à 3 heures plus environ 6. Et puis après, nouveau plus environ 6. Et comme tous les 4 ans, on régresse d'un jour, et ben ça compense. Mais il peut y avoir des années où c'est quand même le 21, parce que l'année bissextile ne retranche pas suffisamment d'heures pour qu'on tombe de nouveau sur le 20 du mois. Ça sera alors à ce moment-là le 21. Il y a eu, je crois, depuis 2000, il n'y a eu que 2 années avec l'équinoxe le 21 mars. Je crois que c'était 2003, sauf erreur, et puis 2007.
J'avais déjà de la peine à faire la distinction entre le tropique du Capricorne, du Cancer, l'équinoxe et solstice. Alors là, je suis...
Voilà,
pourtant, c'est le programme primaire, hein, l'équinoxe, solstice, mais peut-être pas dans ce détail. Quoi.
Ouais, mais il faut juste... C'est pas compliqué, mais il faut bien lire les explications. Rien que Wikipédia, ça aide pas mal à comprendre.
Pour les personnes intéressées, ouais. Des observations, la Lune sera très intéressante à observer à la fin du mois. Hein.
Oui, parce qu'on a donc la nouvelle Lune, c'est quand la Lune est noire, hein, quand on ne la voit pas du tout. Ça se déroulera le 21 du mois de mars. Et donc, ça veut dire qu'à partir du 21, on va commencer à voir la Lune comme un fin croissant. Et comme on a Vénus, c'est l'occasion d'observer ce fin croissant de Lune durant les premiers jours après la nouvelle Lune, donc le 22, le 23, le 24. Et comme on a également Jupiter qui est tout proche, on avait vu qu'il y avait une conjonction entre Jupiter et Vénus en début de nuit. Donc ça veut dire qu'on aura pas mal de petites de conjonctions intéressantes avec le croissant de Lune, notamment Jupiter, on aura une conjonction Jupiter et ce croissant de Lune justement le 22, le lendemain de la nouvelle Lune, avec Vénus le 24, et avec Mars le 28 du mois. Donc c'est aussi l'occasion de regarder aussi ce fin croissant qui augmente de taille jusqu'à arriver autour du 28-29 au premier quartier de Lune. Et puis profiter aussi de cette occasion pour regarder aux jumelles la Lune, parce qu'on peut l'observer à l'œil nu, mais aussi aux jumelles et au télescope. Mais regardez déjà aux jumelles, c'est très intéressant de voir cette ligne du terminateur, c'est-à-dire la zone qui fait la distinction entre le jour et la nuit sur la Lune. Dans cette zone-là, vous allez avoir toutes les ombres qui sont portées, les emportées des cratères, des montagnes, des
donc plein de choses. Donc c'est possible de voir aux jumelles donc des emportées.
Exactement, notamment des cratères, on va pouvoir les voir. Mais vraiment sur cette ligne qu'on appelle la ligne du Terminator. Si vous regardez que dans la partie jour, vous n'allez voir aucun détail, ni dans la partie nuit, bien évidemment. Mais il faut vraiment regarder sur la ligne, le Terminator, qui est la ligne qui sépare le côté jour du côté nuit de la Lune. Et à cet endroit-là, c'est, en fait, finalement, sur la Lune, c'est comme si le soleil était rasant. C'est comme si c'était le soir, si on veut, sur cette ligne-là. Et donc, vous allez avoir comme les arbres ici sur Terre, ça fait des grandes ondes portées. Et bien, les cratères aussi auront des ondes portées et ils seront très faciles à observer.
Donc, on a l'impression de connaître la Lune parce que c'est notre compagnon naturel, mais en fait, il y a beaucoup de choses à voir.
Oui, alors, il y a beaucoup de cratères sur la Lune. Munissez-vous d'une petite carte, c'est facile à trouver aussi sur le net. Et puis, essayez de reconnaître certains cratères, certaines chaînes de montagnes, certaines...
La mer Tranquillité.
De la Tranquillité, par exemple.
Posée Apollo 11. Et puis donc, de simples jumelles, peut-être un trépied ?
Non, même pas. Jumelles, ça suffit pour avoir déjà une très bonne vision des cratères.
Et puis la Lune, on peut l'observer même si on est en ville, il n'y a pas de problème.
Exactement, ça c'est pratique. Par contre, s'il fait moche toute la fin du mois, ben, personne ne verra rien, ça c'est clair.
Bon, ça c'est clair, ça, je pense que ça c'est le béaba de l'astronomie. En voilà. Cas de nuages, ce n'est pas possible. Merci beaucoup Stéphane pour ce ciel du mois de mars et puis on se retrouve le mois prochain pour le ciel du mois d'avril.
Mais avec plaisir, merci.
Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie avec une nouvelle rubrique, une rubrique consacrée à l'histoire, en compagnie de Robert Giroux. Bonjour Robert.
Bonjour Victor.
Donc Robert Giroux, vous êtes connu, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire, surtout liés à des gens et puis au 19e siècle. Et en particulier, vous connaissez bien la rue Joseph-Hyacinthe Barman où nous sommes, puisque vous avez aussi écrit sur les Barman de Saint-Maurice.
Oui, bien sûr. Notamment Joseph-Hyacinthe et son frère Maurice, et un peu moins peut-être pour le moment sur le troisième de la fratrie, Louis.
Bon, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'autre chose, pour parler des Maniens de Charin, de l'émigration du 19e siècle en Valais, surtout engendrée par la pauvreté qui affectait le Valais au cours du 19e siècle, qui incite une frange de la population à chercher de meilleures conditions de vie au-delà des frontières helvétiques. C'est un phénomène qui débute dans les années 1820.
1820, c'est juste après l'entrée du Valais dans la Confédération, quelques années après, et qui s'est prolongé jusque vers la fin du 19e siècle avec une pointe élevée dans les années 1850.
Donc il y a à peu près 400 Valaisans qui quittent le pays natal quand justement cette famille Magnien, Louis Magnien, en 1886 part du hameau des Chênes à Charin avec son épouse Rose et leurs 7 enfants, dont le Benjamin Arthur Marc, âgé de 1 an, donc les enfants entre 13 et 1 an et demi, ils vont s'établir à Saint James dans le Missouri, donc dans le Midwest. Robert Giroux, on parle d'Amérique, des contrées lointaines, mais je suis absolument certain que la majorité de nos auditeurs ne savent pas où se trouve le hameau de Chênes, à Charin.
Mon Dieu, je suis surpris. Si vous regardez le site américain Ancestry, vous verrez que dans toutes les biographies relatives à des Maniens, on parle de Charin, les Chênes. Alors, si les Chênes ne sont pas connus, Charin, il y a 3 hameaux, la gare dans la plaine.
Ce que la majorité des gens connaissent.
Que les gens connaissent bien sûr. Il y a Vison du côté de Saxon, à la frontière de la commune de Saxon, donc à l'est. Vison qui était peut-être, non pas la capitale, mais le hameau le plus important à une certaine époque. Pour preuve, la chapelle paroissiale est à Vison, à côté de l'ancien café des Marronniers. Les Chênes se trouvent à l'opposé du côté de Martigny, et entre les deux hameaux, il y a l'ancienne et la nouvelle école qui sépare ou qui relie les deux entités. Et à cet endroit, autrefois, il y avait un troisième hameau, ou quatrième si on compte avec la gare, qui s'appelait Draversa. Et ce hameau a été complètement détruit par un éboulement et nous n'avons aucune trace dans les archives.
Donc déjà avec un tout petit village comme Chara, on arrive à faire toute une histoire touristique. Oui. Donc ça veut dire que si on vient depuis la gare, pour faire simple, à gauche c'est Visan, à droite c'est les chênes.
Oui. Voilà.
Comment vous avez redécouvert cette épopée des Maniens donc, de Chara qui partent? Comment vous êtes tombé dessus?
Un premier événement, c'est lorsque je travaillais sur une histoire similaire, l'histoire de quatre membres de la famille Clausuy de Martigny, qui, à peu près dans ces mêmes années, avaient émigré au Wisconsin. Et à ce moment-là, une personne qui a eu une bonne idée m'a transmis une liasse de 41 lettres en deux langues, anglais, français, qui relate des lettres qui avaient été écrites par Louis Théodule Magnien.
Et donc le papa de la famille, lui avait écrit.
Le père de la famille, voilà. Oui.
Donc lui avait écrit des lettres depuis là-bas, qui avait atterri à Chara.
Oui.
Mais ces lettres viennent des États-Unis aujourd'hui.
Et aujourd'hui, ces lettres viennent des États-Unis. Le monde est petit, peut-être. En 1946, un descendant des Maniens, Paul, un des fils d'Émile, l'aîné, était mobilisé dans l'armée américaine, les armées d'occupation en Allemagne. Et il a profité de faire un voyage à Chara. Et pour des raisons inconnues à ce jour, il a pris tous les documents, toutes ces lettres manuscrites, et il les a apportées aux États-Unis. Et là-bas, sa cousine, Olga, la fille de Mathilde, deuxième fille de la fratrie de Louis Théodule, Olga a dactylographié les originaux et traduit du français en anglais pour que les descendants maniens en Amérique puissent connaître l'histoire de leurs ancêtres.
Elle parlait français alors ?
Elle ne parlait pas du tout français. Elle dit dans son écrit qu'elle avait quelques connaissances et qu'à l'aide d'un dictionnaire qu'elle avait été acheté à St. James, elle a fait un travail qu'il faut aujourd'hui saluer.
Donc à l'époque, on parle d'une moyenne d'à peu près 300 personnes, 300 Valaisans qui émigrent. Hein. Si aujourd'hui on compare à la population, c'est 100 000 personnes à peu près à la fin du 19e siècle. 300-400 personnes qui partent, aujourd'hui ça ferait à peu près plus de 1000. C'est quand même énorme.
C'est beaucoup et on peut dire, je crois, que ça représentait à peu près 7% de la population.
On sait pourquoi ces Valaisans partaient.
Oui, bien sûr. Il y a des études qui ont été effectuées, notamment par l'historien Arletta, malheureusement décédé. Alors, les causes principales, la pauvreté qui régnait en Valais, les conditions climatiques et sanitaires. Le Rhône se baladait dans toute la plaine, il n'était pas endigué.
Donc l'agriculture était plutôt une agriculture de coteaux
Absolument, voilà. Absolument. Alors une autre cause, c'est la situation politique à l'époque en Valais. Trois guerres civiles, avril 1840, lorsque les Hauts-Valaisans ont tenté de chasser le gouvernement libéral à Sion. Deuxième guerre civile, plus connue, 1844, au pont du Trien à Vernéa. Et la troisième, le Sonderbund, en 1847. Et ces événements ont fait en sorte que la stabilisation du pays a été mise en cause et ça a causé beaucoup, beaucoup de départs. D'un côté, comme de l'autre, des radicaux ont été chassés par les conservateurs, des conservateurs ont chassé les radicaux.
D'accord, donc ça c'est tout le contexte historique du 19e siècle valaisan qu'on connaît somme toute pas beaucoup en fait. Enfin, on a beaucoup étudié l'histoire française, peu l'histoire valaisanne à l'école.
C'est vrai, on peut le déplorer et c'est peut-être la raison pour laquelle je me suis intéressé dans ma deuxième vie en quelque sorte à l'histoire du Valais, qui est aussi mon pays. Et c'est vrai qu'on ne nous a pas appris à l'époque. Et ce qui m'a, un autre argument qui m'a amené à m'intéresser à cette période, c'est lorsque, après avoir quitté Chara en 1958, je me suis baladé, j'ai nomadé à travers la Suisse et ailleurs, au gré des circonstances économiques. Et lorsque je suis revenu au pays, je me suis arrêté dans le Bas-Valais et je me suis engagé, politiquement parlant, disons. Et ce qui m'a surpris, c'est que mes camarades de parti me disaient « Tu n'es pas d'ici, tu n'es pas bourgeois, tu ne peux pas parler de ce genre de choses. » Ça m'a amené à creuser un peu l'histoire et j'en suis très satisfait aujourd'hui puisque je suis retourné dans ma commune d'origine où je suis bourgeois.
Ah ben voilà, un Valais très clanique où Robert se sent nettement mieux, donc à Chara, fusionné maintenant avec Martigny. Revenons-en aux Magnins. Eux partent, mais ce n'est pas une famille qui est pauvre, c'est une famille qui est quand même relativement aisée à Chara.
Louis Théodule et d'autres Magnins, Louis Théodule notamment, est une famille aisée. J'ai trouvé dans les archives de la commune de Chara des documents qui montrent ses propriétés très parcellisées, ce qui a étonné les Américains aussi. Louis Théodule avait une quinzaine de parcelles de vignes et une quinzaine de parcelles de jardins qui représentent l'équivalent approximatif d'un à deux hectares.
Donc, ce n'est pas l'émigration, disons, pauvre, où il y a des gens qui ne savent plus comment faire, qui partent. Parce que Louis Magnin avait aussi beaucoup voyagé. Il avait été au service des rois de Naples.
Alors, il avait beaucoup voyagé au service du roi de Naples, au service du pape, non pas comme garde, mais dans les régiments suisses qui étaient au service du pape à l'époque.
La garde palatine, hein, ce qu'on
appelle. La garde palatine. Tout à fait. Et ensuite, il est allé à Paris. Donc, il a beaucoup voyagé. Il avait une certaine connaissance.
Il faisait quoi à Paris ?
Ouverture. À Paris, il était vendeur dans un magasin. Magasin qui, la rue existe toujours, bien sûr. Et aujourd'hui, à cet endroit, à ce numéro, il y a un magasin de jeans.
Donc, on a ce Louis Théodule, hein ?
Louis Théodule. Voilà.
Qui voyage beaucoup, qui va en Italie, qui va à Paris, ouais. Qui revient à Chara pour se marier.
Il revient à Chara, mais je reviens peut-être sur les causes de son départ. Pourquoi ? Alors, il n'était pas pauvre, donc il n'est pas parti pour des raisons de pauvreté. Mais il est parti parce qu'il n'avait peut-être plus confiance dans les institutions de son pays, bien qu'il ait été conseiller municipal à Chara pendant quelque temps. Il voulait tout simplement assurer un meilleur avenir à ses enfants.
Il quitte quand même une maison dont il est le propriétaire qui va vendre. Une maison en pierre, il y a une anecdote par rapport à ça.
Une maison en pierre, effectivement. Olga, la dame qui a écrit, traduit ses lettres, dit d'une façon un peu étonnée, ils habitaient une maison en pierre. À ma première lecture, je me suis dit oui, et après, je n'avais pas fait le rapprochement qu'à cette époque-là, en Amérique, les maisons étaient construites en planches. D'ailleurs, les enfants de Louis Magnin, avant de se mettre à leur compte avec des fermes, parce que tous ont été fermiers, ont tous travaillé comme charpentiers, notamment à la construction des ponts sur la ligne Saint-Louis-San Francisco.
Ligne de chemin de fer.
Ligne de chemin de fer.
Il y a aussi une particularité de Louis Magnin, il est gradé à l'armée suisse et il est considéré comme très militaire.
Il est considéré comme très militaire dans sa nécrologie parue dans le Confédéré à la date qui ne me revient pas à l'esprit. Il est mentionné qu'il dirigeait avec maestria la parade de la fête patronale de la Saint-Pierre-et-Paul.
Avec la fanfare, l'indépendance. Bon, à l'époque, il n'y avait qu'une fanfare et puis la Diane, hein, c'est juste.
C'est exact.
Donc, en 1886, c'est en avril 1886 qui décide de partir, qui quitte. Hein. Ils vont aller dans le Missouri. On sait pourquoi ils vont dans le Missouri.
Oui, deux raisons principales. La première, l'État du Missouri faisait beaucoup de propagande, de publicité. Venez chez nous, le terrain est de bonne qualité, il n'est pas cher du tout. Ça, c'est une des raisons principales. L'autre raison, c'est que beaucoup de Valaisans, notamment des Charatins, avaient déjà émigré dans cette région du Missouri, notamment un certain Argimir Créton, avec qui Louis avait certainement eu des correspondances. Malheureusement, je n'ai pas de documents de ce moment-là, pas encore.
Ce fameux Argimir Créton part vraisemblablement au Missouri le 10 décembre 1885. Les Maniens partent au mois d'avril. Ils ne sont pas partis comme ça. Il y avait certainement déjà des discussions entre eux et ça devait déjà quand même discuter.
Très certainement. Malheureusement, à ce jour, je n'ai pas de documents sur ces événements de ce moment-là.
Il y a une liste qui existe, hein, qui a été publiée du départ de 41 émigrants bavalaisans le 10 décembre 1885. Il y a des gens de Saxons, il y a des Rares de Saxons, il y a des Borjas, Thérézeaux, des Felais, des Rossets, il y a des gens de Volège aussi, de Lars, de Ride. De Chara, il y a le fameux Argimir Créton. Il y a aussi un nom qui m'échappe maintenant. Alors, il y a de Comté, un monsieur Favre.
Oui. Oui,
aussi Émile Favre, qui par la suite réécrit en valait beaucoup. Il y a Joseph Pellot.
Oui, alors Joseph Pellot, merci de m'apporter ces informations, Victor, parce que dans mes notes, à un moment donné, je parle de lorsque Louis Théodule est arrivé, il est accueilli par Argimir Créton et Pellot. Et je cherchais quel est le prénom de ce Pellot. Et aujourd'hui, tu m'apprends qu'il s'agit de Joseph Pellot. Donc l'histoire se complète en parlant.
C'est un peu comme une pelote, hein. On tire un fil et puis il y a beaucoup de choses qui viennent.
C'est juste.
Donc en fait, c'est des gens, ils partent, ils vont dans le Missouri. Le Missouri à l'époque, c'est comment? C'est peuplé, c'est pas peuplé? Ils arrivent là-bas, c'est comment?
J'ai peu d'informations sur le Missouri, autre que cette propagande qui a été effectuée, venez chez nous, les terres sont de bonne qualité, pas chères, etc.
Bon, le Missouri, ce n'est pas le Far West comme on a l'habitude de le voir dans les westerns ou alors la ruée vers l'or qu'on avait avant.
C'est plutôt le Middle West et c'est le lieu où il y a un grand développement ferroviaire, notamment la construction Saint-Louis-San Francisco, qui va amener beaucoup, beaucoup de monde. D'ailleurs, la ville Rolla, où les Maniens sont établis, les premiers, a été fondée vers 1850 par un ingénieur de chemin de fer et qui devait surveiller les travaux d'avancement de la ligne. Voilà pour la ville de Rolla, contenait à l'époque à peu près 2000 habitants. Donc les Maniens sont arrivés dans une grande ville en partant de Charles-les-Chênes avec 200 habitants.
Bon, on parle de Missouri, j'ai regardé, c'est grosso modo 4 fois et demi la Suisse, hein. Le comté, donc en fait, on part de Chara, mais on arrive dans quelque chose qui est relativement immense. Il y a une grande, grande immigration avec des doublements, voire de population chaque année. C'est très important, là, à la fin du 19e siècle.
Oui. Et si on consulte les registres cadastraux de l'époque, on voit tout d'un coup les Maniens, les Favres, les Pellots, etc., qu'on connaît. Des noms qu'on connaît bien, mais on voit surtout un grand nombre de noms de famille à consonance germanique. Donc, un élément qui démontre l'arrivée massive d'immigrés. Il y a des terres, il y a des possibilités de développement. Voilà pour...
C'est pas mal de, c'est pas mal d'immigration européenne, il y a pas mal d'Allemands. Hein. D'ailleurs, à Saint-Louis, c'est le siège social de Budweiser qui a été exporté aux États-Unis puis qui est devenu la bière la plus importante aux États-Unis, notamment grâce au chemin de fer, puisque Saint-Louis et le Missouri étaient vraiment la frontière entre le Mississippi et le Missouri. Donc c'est toute la partie un peu centrale. On parle du Midwest, c'est la partie centrale des États-Unis. Donc ces maniens, ils partent, ils arrivent là-bas, ils vont acheter une ferme.
Oui. Alors, ce qui est étonnant, Louis avait un contrat pour le voyage, mais contrairement à d'autres contrats voyage et installation, lui n'avait pas prévu dans son contrat l'acquisition d'une ferme. C'est lorsqu'il est arrivé à Rolla, accueilli par Argimir et Joseph Pellot, ils vont en une semaine visiter la région où y a-t-il des terres à vendre. Et en l'espace de moins de 15 jours, Louis Théodule fait l'acquisition d'une ferme avec des terres où il va cultiver le blé, l'avoine, le maïs, pommes de terre, y compris la vigne.
Donc ça, on le sait par ses lettres. Donc c'est tout ce qui est expliqué. Donc en fait, ils sont là-bas, ils écrivent ces 41 lettres, donc étalées sur une quinzaine d'années. Ils écrivent exactement ce qu'ils font.
Ils donnent des nouvelles. Ils expliquent leur vie de tous les jours, les acquisitions, les petits... Louis a beaucoup caché les difficultés qu'il a rencontrées au début, difficultés qui sont tout à fait légitimes.
Alors comment on sait qu'il y a eu des difficultés ?
C'est la dame, Madame Olga, comme je l'appelle, sa petite fille, qui écrit que dans ses premières années, à côté des travaux de la ferme, en attendant des produits financiers, Louis, son épouse et les enfants en âge de travailler allaient chez des fermiers. Et il parle souvent d'un fermier français pour la cueillette des fruits pendant la saison d'été.
Donc faire des revenus complémentaires.
Qui apportaient un peu de beurre dans les épinards qu'il produisait.
Donc là, on a planté le décor, Chara, la famille Magnin, les migrations valaisanes, le contexte, la paysannerie. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ces lettres ? Quand on les lit
Plein de choses. Leur vie, le prix des denrées, les difficultés de la météo. Et on apprend une chose étonnante. Un des enfants écrit, je crois que c'est Émile, c'est lui d'ailleurs le seul qui a, parmi les enfants, qui a écrit des lettres à Chara. Il dit « La météo est bonne, les étés sont un peu comme chez nous, l'hiver n'est pas très long et nous avons comme à Chara la bise ». Voilà une grande découverte dans les lettres. Mais il y en a plein d'autres qui me permettent de constituer toute l'histoire de cette famille.
Donc en fait, c'est les anecdotes de l'époque qui date de 130 ans à peu près, sur des moments très précis qui sont très intéressantes historiquement, c'est ça ?
Oui, puisqu'il y a parfois des retours d'informations de Chara. Sa sœur, Justine, mariée Pont, lui écrit en lui disant « Voilà, les récoltes cette année, c'était bon, c'était mieux que l'année passée, le prix du beurre, le prix des veaux, le prix des vaches, etc. etc. » Donc il y a possibilité d'effectuer une comparaison sur le coût de la vie.
Voilà, le décor est planté. On sait qu'à l'époque, Louis Magnin vend sa maison pour 25 000 francs à peu près. Le voyage lui coûte apparemment 5 000 francs, si ma mémoire est bonne dans ce que j'ai pu lire. Dans une prochaine émission, on va relater donc le voyage, le départ depuis Chara, pas à pied, ils sont directement partis en charrette, ou comment on appelait ça à l'époque ?
Charaban,
ok. Ouais. Jusqu'à Martigny.
C'était un moyen de locomotion à l'époque. D'ailleurs, c'est étonnant, on parle tellement de mobilité aujourd'hui, et dans la presse de l'époque, et dans les documents de l'époque, on ne parle pas comment les gens se déplaçaient, le char à banc.
Donc il y a ce déplacement char à Martigny, char à banc,
char à banc,
pour venir à Saint-Maurice.
Alors,
C'est là que c'est très intéressant, parce qu'on est à Saint-Maurice. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Saint-Maurice qui fait que ces émigrés valaisans viennent à Saint-Maurice?
Oui. Alors, char à banc, par opposition au char à Riedel, jusqu'à Martigny. À Martigny, ils prennent le train de 10 heures jusqu'à Saint-Maurice. Pourquoi Saint-Maurice? Parce que Louis Théodule doit régler le contrat avec son agent d'émigration, un monsieur Louis Veuillet, dont on trouve de la publicité dans le Confédéré de l'époque, entre autres. Oui. Et ce monsieur Louis Veuillet était également tenancier du Café des Chemins de Fer, ici à Saint-Maurice. La famille Magnin ont pris leur dernier repas valaisan à Saint-Maurice, au Café des Chemins de Fer. Après... avant de prendre le train de 14 heures en direction de Paris.
S'ensuit toute une épopée à Paris. Donc on va allécher un peu nos auditeurs pour la prochaine fois. Ils vont à Paris, ils restent un ou deux jours, ils rencontrent quand même des Valaisans à Paris. Donc Paris est quand même une ville qui est pour eux, c'est pas exceptionnel. En lisant ces lettres, on a l'impression que c'est vraiment pas exceptionnel. Et puis ensuite, ils prennent le bateau, arrivent à New York, et puis le dernier déplacement jusqu'à Rolla. Ça sera le sujet de notre prochaine émission. Dernière question, vous avez commencé... à étudier l'histoire des Magnins il y a 2 ans, est-ce qu'on découvre régulièrement des nouveaux éléments, des choses qui arrivent? Le fait d'en parler, est-ce que ça vous a ramené des éléments
Absolument, et d'une façon assez conséquente. Lorsque j'ai contacté Nancy Magnin, descendante d'une arrière-petite-fille de Louis Théodule, on a créé une relation et elle m'a fourni énormément de photos pour illustrer les articles du Confédéré notamment, et beaucoup d'informations. Et un jour, elle m'annonce qu'elle a découvert au musée du comté 250 lettres manuscrites numérisées de 1895 à 1920-1930, échange de correspondance entre différents membres de la famille Magnin. Donc une source dont je dispose et dont je suis très, très fier, et que je vais exploiter pour produire quelque chose dans l'histoire de Louis Théodule.
Intéressant. Merci beaucoup Robert, et on se voit dans une prochaine émission pour parler justement du voyage et du mal de mer dans la traversée de l'Atlantique.
Merci Victor Glasset et Robert Giroux pour cette page historique que vous retrouverez dorénavant tous les mois sur Agone Radio. Un grand merci de nous avoir suivis dans cette émission riche en rebondissements, dirons-nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau jeudredi. Nous recevrons notamment les auteurs et les metteuses en scène de la 8e revue agonoise, qui entamera sa série de 10 représentations à Lola de la Tuilerie le samedi 11 mars prochain. Et puis nous accueillerons le syndic de la commune voisine de Lavemorcle, Mario da Silva, avec qui on s'entretiendra de l'actualité rocane, des chantiers en cours et des collaborations entre nos deux communes. Merci à nos invités du jour, Yasmina Cordonnier, Stéphane Davé et Robert Giroux. Vos remarques et suggestions, c'est par email à info@agoneradio.ch ou par message WhatsApp au 079 150 1890. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et écoutez-nous sur Internet et sur le DAB+. Bonne suite de jeudi soir à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.